L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 30 juin et 1er juillet 2021, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et nous sommes effectivement toujours en direct pour cette deuxième journée depuis le salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, sur Radio Imo et Radio Territoria, avec un nouvel invité, une nouvelle rencontre enrichissante, bien évidemment. Philippe Mazet est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur général d'EGF, BTP, Entreprise Générale de France, bâtiments, travaux publics, c'est ça?
C'est ça.
Bon, et alors dites-moi, EGF, concrètement, parce que c'est une vieille maison déjà, si j'ai pu
dire. C'est une maison qui a presque 120 ans.
120 ans.
Exactement.
Vous ne les faites pas, vous ne les faites pas.
Merci, vous êtes gentil. Vous non plus.
Merci.
Oui, en fait, EGF, c'est le syndicat des entreprises générales du BTP. Alors, les entreprises générales, c'est quoi? Ce sont les entreprises qui accompagnent leurs clients, notamment les collectivités, de A à Z sur un projet de BTP, de construction, dans une appréhension globale. Bien sûr, ce sont les plus grandes entreprises qu'on connaît, les trois majors, hein, Bouygues, Vinci et Eiffage. Ce sont aussi des ETI. Et des PME.
Et ça veut dire combien d'entreprises dans
ça
toute
veut
la France
alors? 35 entreprises, dont un tiers de PME,
ouais,
qui sont fédérées au niveau national pour offrir des solutions globales dont aujourd'hui les maîtres d'ouvrage ont plus que jamais besoin.
Alors, vous travaillez avec le syndicat des directeurs généraux des collectivités locales. C'est pas n'importe qui, hein, ces gens-là, parce que quand même, c'est vos interlocuteurs, j'ai envie de dire, privilégiés quand même sur la longueur, hein, sur la partie quand on est dans la construction, dans la fabrication, etc. Ils sont là, ils vous accompagnent et vous les accompagnez du début, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin. Racontez-nous, ce syndicat des directeurs généraux des collectivités locales, c'est qui et ils font quoi, en quelques mots?
Les directeurs généraux des collectivités locales, ce sont les chevilles ouvrières, les chefs d'orchestre auprès des élus dans les collectivités. Pour nous, ce sont des interlocuteurs, je dirais, essentiels. D'abord, il ne faut pas se le cacher, ce sont les clients de nos entreprises. Beaucoup de les collèges, les gymnases sont construits par ces clients publics. Mais plus que ça, ce sont des hauts responsables qui, auprès des élus, sont là pour penser la stratégie d'un territoire. Comment construire la ville du développement durable aujourd'hui? C'est leur sujet principal auprès des élus. On voit bien que les électeurs attendent des élus qu'on concilie relance, développement économique, logement et environnement dans toutes les villes.
C'est
à eux de le penser. Et c'est exactement les sujets sur lesquels nos entreprises sont mobilisées. Nous sommes
donc il y a un vrai travail commun là. Hein,
exactement. Nous avons cet objectif en commun à un moment où les messages sont un peu troublés. À la fois, on veut la relance et on a besoin de logement. Plus que jamais, le nombre de logements construits s'écroule cette année France.
C'est vrai.
Et en même temps, on veut la ville bas carbone, le développement durable. Et il y a un discours assez faux, mais qui commence à s'imposer, c'est pour ça qu'on se bat ensemble contre ça, qui est de dire, si on veut faire du développement durable et du bas carbone, il faut construire moins. Bien sûr que non. Il faut construire plus.
Et mieux.
Plus et mieux, aux bons endroits, avec les bons matériaux, et éviter que les gens aient une heure de trajet à faire par jour en voiture. C'est ça qui fait des émissions de carbone. Ça veut dire qu'il faut penser la ville durable ensemble, la construire, l'aménager, pour montrer que c'est en construisant plus et mieux qu'on fera du bas carbone. C'est certainement pas en construisant moins. De toute façon, les électeurs ne le pardonneront pas, parce que aujourd'hui, on a besoin de logements. En France, on a besoin chaque année de 500 000 à 550 000 logements. On va vers 300 000 construits cette année. Donc il y a bien sûr la question de la relance économique, mais il y a aussi un besoin. L'environnement ne doit pas être au détriment du logement.
Et dans ce que vous dites, et ce qui est intéressant, évidemment, et je pense que les choses sont en train quand même un petit peu de changer, parce que si on prend l'Île-de-France, par exemple, on a mis les habitants à l'est et les entreprises à l'ouest. Ça, on ne peut plus le faire. C'est fini. C'est fini. Dans ce qu'on construit, il faut qu'il y ait l'activité économique qui aille avec le logement, que l'emploi aille avec le logement.
Ça veut dire qu'il faut souvent reconstruire. Il faut transformer des bâtiments de bureaux, surtout qu'avec le télétravail, les modes de vie changent, en logement. Il faut repenser tout un quartier, un écoquartier, avec les infrastructures. Il y a tout à reconstruire.
Il faut refaire la place du village, tout simplement. Non, mais c'est ça.
Voilà.
C'est vraiment ça, si on veut donner une image.
Et pas une seule, justement.
Et pas une
seule. Il faut refaire des places de village. Ça veut dire que la ville bas carbone, c'est notre défi commun, tout en logeant et en construisant ce dont les électeurs, les habitants, la société a besoin. C'est pas évident.
Ouais.
Hein, parce que c'est facile de dire « Ah ben on va faire de l'environnement, on ne construit plus ». Mais ce n'est absolument pas la solution.
Ouais. Philippe Mazet, vous avez mis en place donc, des groupes de travail pour réfléchir sur les problématiques que rencontrent les collectivités, sur tous ces sujets dont on vient de parler, notamment le sujet environnemental, groupe de travail avec le syndicat des directeurs généraux des collectivités locales. Qu'est-ce que vous attendez à travers ces groupes de travail ?
Bon, alors, effectivement, merci beaucoup de nous amener là-dessus, parce que c'est le cœur de notre coopération. On a parlé des grands objectifs. La construction, le développement et le développement durable, la ville bas carbone. Ça, c'est les objectifs. Pour ce faire, il y a un thème de travail peut-être principal que je souhaiterais mettre en avant, c'est celui de comment passer des marchés, comment utiliser la boîte à outils de la commande publique au mieux. On a en France...
Dieu que c'est compliqué.
C'est très compliqué. On a en France une boîte à outils qui est très compliquée, le marché public, ça fait un peu peur, mais qui est très élaborée. Il y a plein d'outils, notamment les marchés globaux de performance environnementale, la conception-réalisation, le marché de partenariat. Il y a plein d'outils. Nos entreprises, il ne faut pas se le cacher, ce sont les expertes, je dirais, de l'utilisation de ces marchés globaux qui permettent de garantir la performance, notamment environnementale. Et de l'autre côté, on a des DGS de collectivités qui sont confrontés à cette complexité. Comment utiliser cette boîte à outils pour atteindre leurs objectifs ? Et on travaille là-dessus pour que notre expertise, notre envie de partager les bonnes pratiques soit connue de ces DGS de collectivités.
Et vous sentez que les DGS, les directeurs généraux, sont perdus un peu parfois avec
tout ça ? Un DGS de collectivité, c'est quelqu'un, c'est, je parlais de chef d'orchestre, c'est aussi l'homme orchestre, ce sont des gens qui font tout. Ils s'occupent du personnel, de la collectivité, des finances, de l'accompagnement des élus, des écoles. Donc, les marchés publics de construction, ce n'est qu'un sujet parmi 50.
Mais sur ce sujet-là, justement...
Et donc, précisément. Ouais. Or, ça demande de l'expertise. Donc, ils ont pensé qu'en venant vers les entreprises qui apportent ces solutions globales aux élus, ils pourraient bénéficier de cette expertise. Et nous, on a besoin aussi de connaître leurs préoccupations et parfois leurs difficultés. Parce qu'il y a une difficulté à laquelle ils sont confrontés. Il y a beaucoup d'élus pour lesquels ils travaillent, de collectivités. On se dit, oh non, il ne faut pas faire des marchés globaux. Ça empêche de faire travailler les PME locales. Et on sait que c'est important dans cette période de...
Bien sûr, de relance.
Et de relance. Et là aussi, c'est une idée totalement erronée. Sur nos marchés, les deux tiers sont faits, entre la moitié et les deux tiers, par des PME et 85% par des PME du département. Mais ça, ils ne savaient pas. Vous voyez, quand on leur dit ça, ils disent « Ah
bon ?» D'où l'utilité, effectivement, de ces partenariats.
On pensait que travailler avec une entreprise générale, c'était retirer du travail aux PME locales. Voilà, donc on a besoin d'échanger dans les deux sens.
Et vous travaillez avec eux sur les aspects juridiques ?
Alors voilà, la commande publique, le développement durable, l'empreinte locale, pour bien faire bénéficier les marchés globaux aux PME locales. Nous, ce qu'on propose, par exemple, et ça se fait dans certaines collectivités, c'est qu'il y ait des critères d'emploi de PME locales que eux-mêmes mettent dans le marché. Nous, on ne demande que ça. De toute façon, nos entreprises sont là pour entraîner un écosystème local. Et ça, ils ne savaient pas que c'était possible. Pour eux, entreprise générale, c'était opposé à PME locale. Donc, ils se privaient très souvent de cette approche marché global qui est pourtant indispensable si on veut de la performance environnementale.
Bon, donc le message est bien passé et c'est intéressant. Vous pouvez apporter cette expérience.
Exactement.
C'est pour ça que vous proposez
et
que vous travaillez avec eux.
Et on a besoin
d'aller. Voilà, il faut se nourrir. Il faut se nourrir les uns les autres.
Parce qu'un DGS de collectivité, il a des contraintes. Il a des contraintes financières, des contraintes juridiques, des contraintes politiques aussi, avec des fausses idées comme celles sur les PME que je viens de vous dire. Il a tout ça qui lui arrive. Il faut aussi qu'il nous explique comment ils prennent leurs décisions et quelles sont leurs contraintes. Nous, on a les nôtres, ils ont les leurs, et on va avancer pour le meilleur.
Alors dites-moi, puisque vous représentez, au-delà de cette coopération qui est vraiment intéressante, puisque vous représentez les entreprises de France, du bâtiment, moi, j'ai envie de vous dire quand même, on en a un peu parlé au début, c'est vrai que la construction neuve est en panne. Voilà, hein, ça fait déjà un an que ça dure de manière assez violente.
En panne, vous êtes modéré.
Oui, qu'elle s'écroule, vous avez dit
tout à l'heure. Voilà,
exactement. Et c'est vrai, je crois qu'on a construit 380 000...
Là, on est parti pour lancer 300 000 logements, alors que tout le monde sait, gauche, droite, centre, qu'on a besoin au minimum de 500 000 logements en France chaque année. C'est un désastre.
Alors, comment fait-on pour inverser, si je puis dire, la tendance ? Parce que si on regarde les choses simplement, on a par exemple des maires qui, aujourd'hui, ont moins d'argent dans les caisses qu'il y a quelques années. Ils ne perçoivent plus la taxe d'habitation. L'État a fait un effort en parallèle, mais ça ne correspond pas à ce qu'était cette taxe d'habitation en réalité. Donc, ils perdent de l'argent. Il y a d'autres subventions de l'État dont ils bénéficiaient. C'est terminé aussi. Enfin, c'est quand même très complexe pour les maires aujourd'hui. Donc, il y a ça. Difficile de construire parce que si on construit, ça veut dire que derrière, il faut des écoles, des services publics, etc. Il faut de l'argent. Ils ne l'ont pas. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des circulaires. Tiens. La circulaire ZAN, par exemple.
Il n'y a plus de terrain.
Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de terrain. Et puis, alors, si on a la petite plante verte qui est protégée et qui pousse à un endroit, alors là, c'est pareil, on ne peut plus construire. Ou si le chantier est lancé, terminé, il doit s'arrêter jusque perpète. Bon, enfin, ça fait quand même beaucoup de choses. Si on met en plus, évidemment, la crise sanitaire que l'on a connue et, bien évidemment, les conséquences aujourd'hui économiques qui sont que les matières premières... au niveau des prix deviennent intouchables et qu'il y en a de moins en moins sur le marché parce qu'il y a une forte demande mondiale.
Je vois que vous êtes bien informé.
Mais bien sûr, mais on se dit, mais comment on va sortir de tout ça? C'est l'étau, quoi. C'est la construction se retrouve dans un étau, un étouffoir, si je puis dire. Non, mais c'est vrai.
On est, entre autres, sur Radio Territoria, et là, vous avez résumé l'étau dans lequel sont pris beaucoup d'élus territoriaux. Alors, précisément, ça donne tout son sens à notre partenariat. Je ne voudrais pas...
Non, mais c'est intéressant.
Mais c'est très important, parce que la contrainte financière, budgétaire, la contrainte environnementale, la contrainte foncière, tout ça, et la demande de logement et de services des populations, tout ça, c'est les contraintes de nos élus et de nos DGS, hein, qui sont nos partenaires, les entreprises générales, leur métier, leur ADN, depuis plus de 120 ans, on l'a dit, c'est d'apporter une solution à tout ça. C'est de construire... de façon écologique, en optimisant le projet, c'est d'apporter du financement, c'est d'aller chercher du financement, bien souvent, parce qu'une entreprise générale, ça veut dire des délais garantis, de la qualité et de la performance environnementale. Et ça fait venir des subventions et du financement. Parfois, c'est même nos entreprises qui se chargent de financer le projet sur une très longue durée, etc. Monter l'ensemble du projet pour intégrer toutes ces contraintes, ça ne peut pas se faire en traitant les sujets petit bout par petit bout. Il faut une approche globale, une approche générale. C'est exactement ce que font nos entreprises. C'est pour ça qu'on se dit, avec toutes ces contraintes, ce que font nos entreprises va de plus en plus, on le sait, hein, elles ont du succès, les marchés globaux ont du succès en France, ça va de plus en plus être la réponse. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de changer la loi, vous me demandez que faire. C'est écrit dans le code de la commande publique. Mais encore faut-il l'utiliser parce que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on est là pour débloquer et trouver des solutions globales à des problèmes, comme vous l'avez dit, qui sont des problèmes de plus en plus globaux.
J'ai une dernière question à vous poser, Philippe Mazet. Je profite de votre présence, bien évidemment, pour cette question. Vous représentez les entreprises françaises du secteur du BTP. Aujourd'hui, on sait que vous avez plein de métiers en tension, que vous ne trouvez pas de main-d'œuvre. Vous en êtes où sur cette question-là, concrètement? Est-ce que vous savez combien il manque de main-d'œuvre dans vos entreprises aujourd'hui?
Alors d'abord, nous sommes le premier créateur d'emplois en France.
Ça, c'est important de
le
dire.
On a continué de travailler sur les chantiers pendant la crise sanitaire. On s'est adapté et on a réussi. Nos entreprises, qui sont un peu les grandes et les moyennes, ont d'ailleurs permis à leurs sous-traitants, PME, avec lesquels on travaille, de s'équiper. Dès le début de la crise, le BTP ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, il manque effectivement chaque année plusieurs dizaines de milliers d'emplois. C'est nous les premiers responsables. On ne sait pas se rendre attractif.
Parce que vous n'êtes pas attractif.
On ne sait pas expliquer.
Mais pas attractif pourquoi? Parce que les salaires sont trop bas?
Non, parce que pour les jeunes, pour les parents...
Il faut travailler.
Oui, déjà il faut travailler, effectivement.
C'est un problème quand même.
Et pour les jeunes et pour les parents...
Il faut travailler, c'est fou.
Pour les jeunes.
Mais c'est vrai, on en rigole, mais il y a un peu de ça quand même.
Le BTP, on se dit, c'est sale, on est dehors, il fait froid, peut être dangereux. Or, à tous les niveaux de la hiérarchie sur un chantier aujourd'hui, on est sur un métier qui se numérise. Les entreprises générales, c'est normal, on est un peu la tête de proue de la profession. On est en pleine révolution numérique. Le chantier, aujourd'hui, il est numérique. Et on travaille avec du sens.
Il faut toujours des hommes sur le terrain.
Et les jeunes, oui...
Mais les métiers sont facilités.
Voilà. Et il y a du sens. C'est un métier du développement durable. Construction de la ville durable, du cadre de vie durable de demain. Et les jeunes, on le sait bien, ils sont en attente d'un métier qui ait du sens. Donc, on a tout pour plaire, à nous, et on est les premiers responsables, de continuer à essayer de le faire savoir. Et je vous remercie de
m'en donner... Et à bien former les gens aussi, parce qu'il y a souvent des problèmes de formation.
Et puis, une fois qu'on est là, on a quand même des salaires qui sont intéressants, on est sûr d'avoir du travail, c'est une école de méritocratie, hein. On monte dans la hiérarchie quand on commence dans le BTP. On a tout pour plaire. Merci de me permettre de le faire savoir une nouvelle fois.
Eh bien, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, Philippe Mazet, directeur délégué, délégué général pardon, d'EGF, BTP, Entreprise Générale de France, Bâtiments et Travaux Publics, avec nous sur Radio Territoria et Radio Immo. Et c'est vrai que c'est un beau secteur qu'il faut soutenir. Et les jeunes qui nous écoutent, ben voilà, s'ils cherchent du boulot, etc., qu'ils viennent vers vous.
Les portes sont grandes ouvertes.
Les portes sont grandes ouvertes et il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre dans la vie professionnelle, tout simplement. Merci à vous d'être venu nous voir. À très bientôt. Et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle rencontre sur Radio Territoria et Radio Immo depuis la MIF, le salon des maires d'Île-de-France à Villepinte. À tout de suite.
La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 30 juin et 1er juillet 2021, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.